Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Esprit Occitanie, votre émission Sentinelle d'Humanité. Émission coproduite par l'ANRAS, Association Nationale de Recherche et Action Solidaire, à la technique et à la réalisation, mon complice de toujours Léo et votre serviteur André Satenza. En direct du studio Gisèle Halimi, je reçois aujourd'hui M. Philippe Gibaud, directeur du territoire sud de l'association Cité Caritas. Alors je rappelle, le territoire sud, c'est Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et la région PACA. M. Gibaud, vous êtes également co-ordinateur du collectif inter-association qui œuvre ensemble contre la précarité et la pauvreté. Et dans ce collectif interassociatif, on retrouve, je donne quelques exemples, bien entendu, votre association, la Cité, la Madeleine, Cité Caritas, la Croix-Rouge, Emmaüs, Médecins du Monde, l'Entraide Protestante, la Roulotte Solidaire, Solia, des acteurs importants dans le secteur toulousain. Soyez le bienvenu, Monsieur Gibaud.
Merci, merci à vous.
Bien, nous allons démarrer, si vous le permettez, Monsieur Gibaud, par la Cité Caritas. C'est une association qui a été créée à quel moment ?
Alors, tout simplement, c'est une association qui a été créée en 1990 à l'initiative du Secours catholique. Nous faisons partie du réseau Caritas, au même titre que le Secours catholique. Il y a une fondation aussi, la Fondation Caritas. Il y a une foncière, mais Cité Caritas est, si vous voulez, la partie professionnelle du réseau Caritas, c'est-à-dire contrairement au Secours catholique qui, elle, gère des bénévoles, nous sommes une association de professionnels. C'est une association nationale avec, pour l'année 2022, 20 000 personnes qui ont été accompagnées dans
différents secteurs,
de l'handicap, le social, l'asile et l'insertion par l'économique aussi. Nous avons un ESAT, par exemple, au Mans, à Pêcheret, un zoo. Donc, nous gérons un zoo, par exemple.
Voilà, ça, c'est intéressant, c'est assez original. Jusqu'à présent, je n'ai jamais reçu d'association du social ou médico-social qui gérait un zoo.
Si,
ça veut dire quoi ? Que vous avez des personnes en situation de précarité, que vous accueillez,
et
du handicap, et qui travaillent, ou en tout cas sont soutenues à travers une activité de zoo.
Tout à fait.
Alors, l'entreprise de zoo, pour
être plus dire. Un parc animalier, parce que maintenant, les zoos, ils n'ont pas trop la cote, mais c'est plutôt un parc animalier qui regroupe toutes sortes de... Et c'est une super balade pour le dimanche, pour ceux qui habitent le Mans, mais c'est très loin de chez nous. Pour en revenir à nos activités, donc l'économie sociale et solidaire, et donc nous sommes, au niveau national, Cité Caritas, le quatrième opérateur de l'hébergement généraliste.
Alors, quand vous dites, pour nos auditeurs, hébergement généraliste, c'est quoi ?
C'est
hébergement d'urgence,
exactement.
Hébergement social.
Exactement, tout ce qui est urgence sociale. C'est pour ça que cette question de l'hébergement nous intéresse plus précisément. Il nous aura l'occasion de le développer en voyant un peu les problèmes aujourd'hui qui se posent. Plus localement, et nous sommes à Esprit Occitanie, donc on va parler de nos activités sur l'Occitanie. Nous sommes organisés en cité, et une cité, c'est un peu un territoire. Et à Toulouse, nous gérons ce qu'on appelle la Cité de la Madeleine. Dans la Cité de la Madeleine, c'est 120 salariés, 746 places quand même d'hébergement, avec une couleur plus axée sur les femmes, femmes isolées, femmes avec enfants, femmes victimes de violences ou femmes victimes de la traite. 1800 personnes que nous accompagnons quotidiennement. Ce sont des hébergements femmes, des hébergements familles, de l'intermédiation locative, l'asile avec la gestion de CADA ou d'accueil d'urgence. Un dispositif intéressant que nous avons à Saint-Cyprien qui s'appelle La Colline, qui est à la rue Adolphe Coll, où nous accueillons 42 personnes. Alors, avec la particularité, c'est très collectif, c'est pour des grands précaires qui souffrent de troubles psychologiques ou des personnes vieillissantes, prématurément vieillissantes, comme on appelle dans la précarité, puisque rapidement, on tombe dans la vieillesse prématurément du fait de la vie à la rue.
Vivre à la rue, c'est une grande violence.
C'est une grande violence et c'est compliqué à gérer parce que il faut faire contre l'envie souvent des personnes qui des fois, pas tout le temps, mais choisissent ce mode de vie et avec toute la violence que ça comporte, c'est-à-dire l'addiction, le froid et le dénuement quoi. On l'a connu quand même. Enfin, une petite parenthèse. On s'imagine pas ce qu'ont vécu les gens de la rue pendant le Covid, où il n'y avait pas de toilettes ouvertes, où il n'y avait pas de lieu pour s'alimenter, où tout le monde était replié sur eux-mêmes
et isolés
complètement à la rue.
Comme des fantômes, pourrait-on dire, dans la cité.
Exactement. Ils vivaient de la manche. On peut vivre de la manche, mais quand il n'y a personne dans la rue, comment fait-on pour faire la manche ?
C'est des difficultés. On n'a pas fini, bien entendu, d'évoquer tout cet événement et ce qui s'est passé dans cette période encore du Covid. Un certain nombre de chercheurs, sociologues ou autres, travailleurs sociaux, travaillent encore aux conséquences du Covid et c'est confinement successif.
Je ne sais pas si on en a tiré toutes
encore
les conclusions.
Encore toutes les leçons et les conséquences. Ouais. Alors, c'est votre financement de votre association, par exemple sur Toulouse, vous travaillez avec qui ? C'est le conseil département, c'est la préfecture, c'est l'État qui finance ces activités ? Ce sont également de l'argent que vous collectez à travers votre fondation ?
Alors, très peu de financement privé. Bien sûr, nos principaux financeurs, ce sont des financements État, donc par la DES, la direction départementale de la... J'ai du mal avec les acronymes. L'ancienne cohésion sociale. Je me rappelle plus. La DES, un peu la mairie de Toulouse quand même, parce que nous gérons aussi, ça c'est important à dire, nous gérons une halte de nuit près du Grand Rond, qui accueille les grands précaires de 19h à 7h du matin. Et la particularité de cette halte de nuit, c'est un lieu qui permet de se reposer, de se restaurer, et qui fonctionne avec des bénévoles de toutes les associations confondues, et qui sont portés justement par le collectif Interassociation de Toulouse, qui intervient dans ce lieu tous les soirs de 19h à minuit le soir pour tisser le lien, pour jouer avec les accueillis, pour jouer aux cartes par exemple, pour tisser du lien, ou pour du conseil, voilà, pour du...
Est-ce que ce sont des jeunes, plutôt des vieux, les personnes qui sont à la rue aujourd'hui ? Est-ce qu'on a identifié, est-ce qu'on a des chiffres, la préfecture, peut-être vous-même, à Cité Caritas, vous avez identifié le nombre de personnes à la rue à Toulouse aujourd'hui ? Est-ce qu'on a une idée ?
Malheureusement, oui. Et les chiffres, c'est une courbe croissante, inexorablement croissante, je dirais. Depuis que j'exerce ce métier, je n'ai jamais vu autant de personnes à la rue aujourd'hui. Avec des publics qui évoluent, c'est-à-dire que on ne trouvait pas, il y a quelques années, on ne trouvait pas de femmes âgées à la rue. Aujourd'hui, il y a des femmes âgées à la rue. Il y a de plus en plus de jeunes, il y a de plus en plus de femmes avec des enfants en bas âge. Et alors des chiffres, je ne veux pas vous abreuver de chiffres, mais j'ai des chiffres très récents. La semaine dernière, il y a eu 196 personnes qui ont demandé un hébergement et sans pouvoir être pourvu, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu répondre à leur demande.
On n'a pas pu les accueillir.
Dans ces 196 personnes, il y avait 32 familles, dont une centaine d'enfants. Une centaine d'enfants, alors ce sont des enfants, des non-majeurs, ce qu'on appelle. Donc voilà, c'est quand même un problème. Et encore, on parle Occitanie, mais on parle sur un sujet de la métropole, très 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 urbain. La même chose existe dans l'agglomération où là il n'y a pas de dispositif. On peut encore se vanter, je ne sais pas s'il faut se vanter de ça, mais d'avoir des dispositifs en nombre sur l'agglomération de Toulouse, ce qu'il n'y a pas dans les petites agglomérations ou dans les villes moyennes, par exemple,
vous allez à Cahors, vous allez à Tarbes, vous allez à Auch, il n'y a pas de dispositif.
Alors encore, on est sur des dispositifs très basés sur les préfectures Et le milieu rural connaît aussi son lot de précarité, de personnes en situation d'exclusion. Pour revenir sur les chiffres encore, aussi dramatique, aujourd'hui, il y a 1774 personnes qui vivent à l'hôtel. Aujourd'hui, au moment où je vous parle. Et ça, c'est des chiffres qu'on n'a jamais connus. Et malgré que des places soient ouvertes par milliers, et je dis même par milliers, depuis quelques années, on a ouvert par centaines, on ouvre par centaines de places, des places par centaines chaque hiver. Là, aujourd'hui, il y a eu 190 places ouvertes pour ce plan hivernal 2022.
Alors, le plan hivernal commence au mois de septembre, octobre, novembre.
Oui, plutôt. J'ai du mal un peu à parler de ça parce que le plan hivernal, théoriquement, il n'existe plus. On ne doit plus gérer au thermomètre.
Beaucoup d'associations disent qu'on gère aujourd'hui le logement d'urgence au thermomètre.
Exactement.
Emmaüs le dit, le directeur général d'Emmaüs le dit, dans tous les médias, il y a bien un problème récurrent dans notre pays sur le logement d'urgence ou sur l'accueil. Et quand vous dites depuis une quinzaine d'années que vous gérez, vous êtes en activité, vous voyez que ces chiffres grossissent, augmentent. Que se passe-t-il dans le logement? Pourquoi arrive-t-on à des chiffres aussi importants? Ça veut dire quoi? Que il n'y a pas assez, les inégalités dans notre pays se sont,
Se sont aggravées. Bien sûr,
je ne vais pas enfoncer des portes ouvertes.
Même
si le diagnostic est connu de tous, mais quand même, vous, votre ressenti comme professionnel.
Je ne vais pas enfoncer des portes ouvertes. Aujourd'hui, il y a des facteurs qui creusent l'inégalité et qui conduisent les personnes dans la précarité. Je n'ai jamais vu autant de travailleurs pauvres qui, aujourd'hui, sont contraints de loger dans les voitures. Comment peut-on, en 2024, pouvoir assurer un travail, travailler toute une journée, généralement dans des métiers pénibles, en ayant dormi toute la nuit dans le froid et dans une voiture. Ce n'est pas possible. Je vous apprends rien sur l'inflation, le prix des matières premières qui flambent, l'accessibilité au loyer qui devient de plus difficile. Mais il y a quand même des facteurs qui sont aggravants. C'est-à-dire la difficulté, par exemple, à Toulouse, de se loger de façon correcte et de se loger avec des loyers supportables. Aujourd'hui, il y a une pénurie de petits logements et de grands logements à des prix abordables. Donc, c'est très difficile à se loger. Je ne connais pas les chiffres pour Toulouse exacts. Mais on me racontait la semaine dernière que dans un centre d'hébergement, pour une famille qu'on proposait un logement, il y avait 50 propositions. Donc, il faut qu'une famille soit choisie parmi 50. Comment voulez-vous que les personnes sortent de l'hébergement? C'est-à-dire qu'on a un gros problème de fluidité. Les personnes qui sont dans l'hébergement y restent parce qu'elles ne trouvent pas de solution. Alors, souvent, la problématique nous est porté par le gestionnaire, par nous-mêmes, où on nous dit, il faut que vous améliorez la fluidité. Mais la fluidité, je ne peux l'améliorer que si derrière, on me propose des
offre,
solutions.
C'est ça, c'est-à-dire une offre de location.
Une offre d'un ailleurs, c'est-à-dire que de proposer un logement et d'offrir aussi une capacité de travail. Enfin, c'est pas, sortir de la précarité, c'est pas seulement un seul facteur. On parle de la politique aujourd'hui qui est menée par le président actuel qui a lancé un grand plan du logement, ce qu'on appelle le logement d'abord. C'est-à-dire qu'on part du principe que toute personne doit avoir un logement. C'est très bien. Mais faut-il que ce logement, il soit abordable et disponible dans un premier temps? Et ensuite, nous avons beaucoup de personnes, alors, qui souffrent de problèmes psychique, la question de la santé mentale est un gros problème dans nos interventions. Et il y a des personnes qui ne sont pas en capacité de vivre en logement parce que isolées, seules, avec des problématiques de gestion budgétaire, de toutes sortes de difficultés qui nécessite quand même d'avoir
un suivi, un accompagnement pour permettre de pouvoir s'insérer. Voilà, la société inclusive dont tout le monde souhaite. S'il n'y a pas un minimum d'accompagnement, cela n'est pas possible. Voilà les facteurs de logement et insertion. Vous dites également que la production aujourd'hui de logements dits sociaux et très sociaux manque cruellement. Et donc, les bailleurs sociaux, pour diverses raisons, ne construisent pas, ne produisent
pas.
Il n'y a pas de plan.
Je ne voudrais pas parler à la place des bailleurs qui font leur travail. J'en doute pas. Mais je pense que c'est comme aujourd'hui le désert médical. C'est quelque chose qu'on vit aujourd'hui, mais c'est un manque d'anticipation. C'est quelque chose qui n'a pas été pensé. Aujourd'hui, le Covid est passé par là. Il y a d'autres facteurs, mais qui peut-être c'est des notions qui peut-être échappent à beaucoup de gens. Mais aujourd'hui, le construire coûte très cher parce que justement la guerre en Ukraine est passée par là, le Covid est passé par là, et le prix de la construction aujourd'hui a augmenté de 30%. Et que on ne s'y retrouve pas. Les bailleurs ne peuvent s'y retrouver que si il y a une politique du logement qui est ambitieuse, mais je dirais non aboutie. Et il y avait des écueils qui aujourd'hui, tout le monde le paye, quoi.
Voilà. La politique du logement ce soir, certains économistes disent quand même que l'État, alors qu'il y avait le livret A qui devait servir à produire du logement social, on a prélevé de l'argent là où il fallait pas. C'est-à-dire que l'État, même avec sa politique, c'est pas du tout une critique au gouvernement et à l'ensemble, mais quand même, il faut pointer qu'il y a une non-cohérence entre le discours politique porté très fort par l'ensemble des acteurs et ensuite la mise en pratique. Et là, l'ensemble des économistes le disent très bien. Eh ben, si l'argent qui devait être disponible sur le livret A n'est pas aujourd'hui disponible parce que l'État en fait autre chose, il est très difficile de sortir pour les bailleurs sociaux de pouvoir prélever et emprunter à un tarif qui soit tout à fait, à des taux qui soient tout à fait corrects pour pouvoir sortir des programmes dans la région. Donc, cette politique du logement devrait être la priorité. Et vous pensez aujourd'hui, ou en tout cas beaucoup d'acteurs du secteur considèrent que la politique n'est pas si ambitieuse que ça, même si vous dites, vous, de votre côté, oui, il y a quand même de l'ambition.
Oui, il y a de l'ambition, mais on a pris tellement de retard qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire. Il y a des lignes qui sont en progression, mais qui ne se rejoignent pas. Le nombre de logements construits et la précarité qui augmente avec des personnes qui doivent se loger et qui ont une nécessité d'avoir un logement. Mais enfin, le logement n'est pas que le seul problème. Nous, on est confrontés à plusieurs problèmes. Le problème de la, alors, on peut s'en réjouir, mais depuis un an, on a l'air d'être sur une politique de plein emploi et on souffre de la vacance de poste. Aujourd'hui, nous avons un taux de vacance de poste de plus de 10%, c'est-à-dire que nous ne trouvons plus des personnes pour les postes que l'on propose. Ça rejoindra peut-être un peu notre discussion sur les mauvais prétextes qui de la politique d'immigration sur l'emploi. Aujourd'hui en France, on ne subvient pas aux besoins entre autres sur l'aide à la personne où nous manquons de personnel. Nous manquons cruellement
dans
de
les
personnel.
Métiers de l'humain, dans l'accompagnement, dans tous ces métiers que l'on considère toujours comme des invisibles, on manque de la main-d'œuvre cruellement, 10%, mais également dans les travailleurs sociaux ou autres, on en manque aussi cruellement du recrutement, et donc là on a une sorte d'effet ciseau. Ceux qui doivent s'occuper des humains manquent, ceux qui doivent travailler pour s'occuper d'autres humains manquent également dans toute la structure, et pas d'accompagnement peut-être également pour les enfants, petite enfance, etc. La situation est très dégradée, et donc vous avez un collectif. Ce collectif inter association Toulouse Ensemble contre la précarité un collectif qui a été créé en 1984-85. C'est quand même... Alors, là, vous avez une histoire très, très forte marquée dans, le, dans l'agglomération toulousaine.
Alors, Toulouse a toujours été...
À la pointe, pourrait-on dire ?
Oui, c'est ça, c'est ça. À la pointe,
une,
mais
une,
même...
Une quand, région solidaire.
Quand je vais dans les l'année, la semaine dernière, j'étais reçu au ministère et ils disaient « Ah oui, mais Toulouse, vous êtes des... » Je sais pas, ils ont dit des militants ou des... oui, je crois que...
Des hommes et des femmes engagés, pourrait-on
ouais,
dire,
on est,
qui savent créer
Toulouse,
des espaces plutôt... de solidarité, peut-être.
Oui, de concertation, je le vois par rapport... Il faut s'enorgueillir de ça. Moi, je travaille sur des grosses agglomérations comme Marseille et Bordeaux. À Bordeaux, on conteste pas, on obéit. À Marseille, on nous demande de rien, c'est différent. Mais à Toulouse... ouais, il y a c'est un petit ce, il faut qu'on comprenne, il faut qu'on débatte, il faut qu'on concerte et le collectif interassociation le CIAT c'est un contre-pouvoir, un espace de plaidoyer. Alors on fait pas que contester, on propose. L'halte de nuit dont je vous parlais est, en est l'objet, c'est-à-dire que dans les années 90-95, le CIAT a conclu qu'il n'y avait pas un lieu pour où puissent se reposer les gens de la rue qui ne voulaient pas d'hébergement et qui étaient à la gare Matabio, qui étaient qui logeaient dans des sous des devantures de magasins. Il n'y avait pas un lieu comme ça. Et le collectif, globalement, d'une façon un peu solidaire, a décidé de créer cette halte de nuit qui, aujourd'hui, fait partie du paysage. Et même si Cité Caritas est le gestionnaire de cette halte de nuit, le projet social et le projet politique...
A été porté par l'ensemble.
Continue
à être porté par l'ensemble.
Si jamais il y a une décision à prendre, nous ne pouvons pas, Cité Caritas ne peut pas changer le projet. Il y a des, à l'heure où je vous parle, les bénévoles de toutes les associations et nos salariés sont en train de discuter sur les orientations, l'état des lieux, de la halte de nuit et comment ça fonctionne. Le collectif, et le est l'initiateur d'un village sous tente. Alors le village sous tente, c'est un projet qui nous aussi nous tenait à cœur, qui part du principe que laissons les gens vivre comme ils ont envie. On ne peut pas obliger des gens à vivre en dur s'ils ne veulent pas en dur. N'essayons pas d'obliger les gens du voyage à habiter dans des maisons ou dans des HLM, ils veulent vivre en caravane, ils veulent vivre dehors. Mais c'est pareil pour une certaine frange de la population, et je dis pas toute la population, ils sont peu nombreux, mais laissons-les vivre comme ils veulent. Ils aiment vivre sur un terrain, sous une tente, avec leurs animaux, d'une façon un peu, voilà, un peu originale, mais c'est leur projet.
Et là, vous êtes en train de monter ce projet, ou
ce projet
est déjà
existe.
Monté?
Existe. Ce projet existe.
Il est situé où, si on peut dévoiler?
Alors, je ne saurais pas les situer, mais il est porté par le GAF. Le groupe Amitié Fraternité.
D'accord. Et qui est membre du collectif. Comme vous dites, c'est un collectif là qui travaille en mode collaboratif. Hein. C'est-à-dire, il n'y a pas d'existence juridique. Ce sont bien les associations qui, entre elles, échangent. Et vous-même, vous êtes le secrétaire de la
du co-coordinateur. On est plusieurs co-coordinateurs. Avec Médecins du Monde, voilà. Le Secours Catholique, La Cloche. Association très intéressante à La Cloche. Si vous avez l'occasion, penchez-vous sur ça.
Nous les inviterons.
C'est vraiment, ils ont des actions qui sont formidables, La Cloche.
Est-ce que les associations, le collectif, est-ce que vous faites également des maraudes ou pas, ou c'est pas votre secteur, ce n'est pas
alors,
à vous de faire ça?
Non, ce n'est pas à nous de faire ça. Nous représentons le collectif. Nous essayons d'avoir une réflexion globale sur la précarité. Et sur les choses qu'il y a à mettre en place ou les leviers qu'il y a à actionner. C'est-à-dire que quand on estime que on ne répond pas à nos besoins, on est les mouches du coche. C'est-à-dire qu'on va rencontrer les personnes qui sont responsables ou qui ont le pouvoir pour leur demander de mettre en place le plan hivernal par exemple. Mais ça peut toucher plein d'exemples. Je citerai un seul exemple qu'on a mené il y a quelques années. Tisséo, dans notre transporteur local, mais il avait un problème, c'est qu'avec nos publics, ben, généralement, ils voyagent sans ticket.
Sans ticket.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour Tisséo? Ça veut dire de la paperasse, de l'administratif, pour mettre des amendes et pour récupérer ces amendes qu'ils ne récupéreront jamais. On sait très bien que nos publics n'ont pas les moyens, parce qu'ils ne sont pas solvables, de payer. Alors, au lieu de leur mettre des amendes, oui, nous, on a proposé à Tisséo d'acheter des billets, des tickets de métro, de transport à coût raisonnable, 1 €. Nous, centre d'hébergement, où c'est des accueils de jour.
Voilà, vos associations achètent
et nous,
des billets,
les distribue,
et vous
les
distribuez
pour permettre... pour que les personnes puissent se déplacer.
Cette opération a réussi avec Tisséo. Ils ont compris qu'il valait mieux qu'il y ait une somme modeste plutôt que
des procédures administratives qui sont coûteuses et qui n'aboutissent pas.
Voilà. Mais je vous propose, pour continuer à parler de la précarité, Maxime Le Forestier qui nous dit « On est né quelque part ».
Choisis pas ses parents, on choisit pas sa famille. Choisis pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris, d'Alger, pour apprendre à marcher. Être né quelque part. Être né quelque part, pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Des oiseaux de basse-cour et des oiseaux de passage. Savent où sont leurs nids, qu'ils rentrent de voyage ou qu'ils restent chez eux. Ils savent où sont leurs œufs. Être né quelque part. Être né quelque part, c'est partir quand on veut, revenir quand on part. Choisis pas ses parents, choisis pas sa famille. Choisis pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger, pour apprendre à marcher. Je suis né quelque part. Je suis né quelque part, laissez-moi ce repère où je perds la mémoire. Les gens naissent égaux en droit,
j'en ai ces gros endroits, à l'endroit où ils naissent, que les gens naissent pareil ou pas.
Sentinelle d'humanité, Esprit Occitanie, toujours avec Monsieur Philippe Gibault, le directeur territorial pour le sud de la France. Je rappelle, le sud de la France, c'est Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, PACA, Cité, Caritas. Et nous parlions du logement d'urgence. Alors justement, dans le logement d'urgence, vous avez aussi une particularité. Vous avez accueilli, au moment de la guerre, déclaration de la guerre, en Ukraine, par ce dictateur qui est Poutine, donc beaucoup d'Ukrainiens, ukrainiennes notamment, des femmes, des vieillards, et je crois que vous avez 500 personnes hébergées sur la ville de Lourdes. Là, ça c'est un projet, ou ça, c'est un chantier, pourrait-on dire, là.
Alors,
Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça fonctionne et quel va être le devenir, là?
C'est un chantier. Alors, sachez que quand on est face comme ça à un événement comme la guerre en Ukraine en mars 2022, en mars 2022, on ne se pose pas trop la question. Et personne ne s'est posé la question. Il fallait intervenir. Cité Caritas a été de cela, avec de nombreux acteurs. Et on a réfléchi pas longtemps à savoir où était le lieu en Occitanie où on pouvait accueillir le plus rapidement des Ukrainiens. Alors, Lourdes connaît un déficit de foi, je dirais, qui fait que beaucoup d'hôtels sont vacants et on manque cruellement de pèlerins. Beaucoup d'hôtels sont en vente. Et
Il y avait des places disponibles.
Il y avait énormément de places disponibles dans les hôtels. Pas de problème pour accueillir dans des hôtels des Ukrainiens. Après, alors bizarrement, Lourdes se prête très bien à cet exercice parce qu'il y a une communauté internationale très forte. Il y a des communautés russophones, enfin, bon, je dirais russophones, c'est peut-être pas le, mais qui parlent la même langue, des interprètes ukrainiens, des médecins ukrainiens, nous avons même eu des psychologues ukrainiens, et tout un vivier de bénévoles qui ont pu prendre en charge
ces personnes, qui sont notamment des femmes avec enfants. Il y a très peu d'hommes, sauf des vieillards, pourrait-on dire.
Peu d'hommes. Quelques hommes, mais parce qu'ils sont à charge d'une famille nombreuse, donc ils sont exemptés de servir peut-être l'État. Je ne sais pas comment ça fonctionne réellement à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, ça fait, on va être dans notre deuxième année.
Deuxième année de guerre, malheureusement.
Le temps passe vite. Et malheureusement, rien de nouveau à l'horizon. La guerre est toujours, la guerre est toujours là. C'est compliqué. Ça devient compliqué parce que ce sont des familles qui ne se projettent pas ou se projettent peu dans une vie en France, qui sont plutôt sur la perspective d'une fin de guerre. Qui s'éloignent de plus en plus de leur pays, car de plus en plus déracinés. Ils ne sont plus, ils sont de moins en moins ukrainiens, ils ne sont pas du tout français. Donc, ils vivent ce que vivent beaucoup de personnes qui sont en exil, c'est-à-dire de ne plus savoir d'où on vient et
perte de repères, perte de racines, et là, un problème d'identité très fort.
Exactement, un problème d'identité très fort. Et une vie un peu en autarcie, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui vivent dans des hôtels, dans des chambres d'hôtels, avec un quotidien qui s'égrène comme ça, sans réelle perspective.
Et comment peut-on construire alors quelque chose si la guerre dure, ces familles doivent s'intégrer d'une certaine façon dans la communauté française?
Elles devront, à un moment donné, s'intégrer. Alors, je pense que ça ne sera pas une mince affaire. Je pense aussi que on commence à en avoir les prémices, c'est-à-dire qu'on commence à avoir un État qui a fait beaucoup, mais qui s'essouffle financièrement parce que c'est un coût supporté par l'État. Et je pense que d'ici 6 mois, nous allons avoir des instructions pour que cette population qui avait un traitement à part,
spécifique. Il y avait une dérogation et la dérogation
mais d'urgence,
les membres de l'Union européenne avaient acté une dérogation à cette époque.
C'est normal. Mais aujourd'hui, on nous demande de les intégrer dans ce dont je vous ai parlé ultérieurement, quoi. C'est-à-dire toute la population dans la précarité, avec passer par des hébergements d'urgence du collectif, avec des priorisations, parce que aujourd'hui, je parlais d'un nombre croissant de personnes qui demandent de l'hébergement, et très peu, enfin, le 115, quand vous faites le fameux numéro, le 115, ce soir, vous avez un problème, vous vous retrouvez sans maison, sans travail, sans argent, vous faites le 115 pour être hébergé, vous avez 20% de chance
de trouver quelque chose.
D'être d'abord entendu.
D'accord.
On ne parle même pas d'avoir une solution. Ah. C'est-à-dire que ce numéro décroche. Mais il décroche, je les connais bien, ce sont des collègues. C'est pas qu'ils n'ont pas envie, c'est qu'ils sont submergés par la demande.
Ils sont saturés, quoi.
Ils sont saturés par la demande. Et que c'est un service qui fonctionne bien, mais avec très peu de réponses. Pourquoi? Ben, de notre faute à nous aussi, gestionnaires, c'était que nous n'avons pas de place à leur donner, puisque les places sont embolisées et avec très peu de vacances. Donc voilà, le problème ukrainien, c'est un problème qui n'est pas encore terminé. J'ai bien peur que la guerre perdure, malheureusement, que les solutions ne soient pas trouvées, que ces personnes ne puissent pas retourner dans leur pays, qu'ils soient contraints et forcés de rester en France, et que, malheureusement, ils sont pas, aujourd'hui, ils ne sont pas dans cette optique. Ils ne travaillent pas ni leur apprentissage du français, ni leur insertion professionnelle, bien que, bon, sur Lourdes, on trouve des petits boulots, mais ça reste du travail.
Une cohorte de 500 personnes, alors que vous êtes à Lourdes, dans des départements des Hautes-Pyrénées,
déjà
où il y a des difficultés sinistrées. Donc, ça veut dire qu'il va falloir trouver des solutions dans l'ensemble d'Occitanie.
L'intégration de ce public ne se fera pas à Lourdes.
Voilà. Alors, il faudrait qu'on aborde une autre question, parce que je sais que vous êtes très actif en tant qu'administrateur à la FAS, à la Fédération des acteurs de solidarité, pour aborder une loi qui, pour le moment, est à l'étude au Conseil d'État, Conseil constitutionnel, pardon, qui est la loi de migration et asile. Et là, je sais que les acteurs, beaucoup de fédérations, ont monté un créneau avec des plaidoyers disant cette loi est une loi mortifère. Cette loi va créer plus de problèmes. Nous, les acteurs de la solidarité, nous avons évalué, il va y avoir plus de problèmes. Elle va créer plus de précarité, encore une fois, y compris peut-être plus de problèmes de santé dans cette population. Vous, Cité Caritas, et vous, en tant qu'administrateur,
C'est une question qui nous préoccupe. Là, aujourd'hui, présentement, je ne vous parlerai pas en tant que citoyen de ce que je pense de la loi immigration.
En tant que professionnel, c'est ce qui nous intéresse.
Ça appartient à toute personne qui... à tout électeur qui a voté et à nos instances décisionnaires. Moi, je vous parlerai en tant que, et j'en pense pas moins quand même, mais en tant que coopérateur, gestionnaire d'établissements sociaux, moi, c'est des questions qui se posent au niveau du devenir et de la question des personnes qui sont sans papier. C'est une évidence, aujourd'hui et demain, il y aura toujours des personnes sans papier qui ont fui le pays pour quelque raison que ce soit. Pour des questions d'oppression, de conditions de vie. Quand vous êtes un père de famille avec 4 enfants et que vous n'arrivez pas à subvenir aux besoins de votre famille, ben vous cherchez un lieu qui pourra vous accueillir, où vous pourrez vivre d'une façon sereine et pour élever vos enfants. Et tout le monde comprendra ça, qu'à un moment donné, même pour des raisons économiques, on peut fuir son pays. Et de toute façon, quelles que soient les lois, qu'ils soient, qu'ils soient, les, les, les lois ou les mesures qui soient prises pour empêcher ça...
Ça passera quand même.
On aura toujours des personnes sans papier. Sauf
qu'il y avait un acteur de la solidarité qui disait entre une mort certaine et une mort probable, on préfère la mort probable. C'est-à-dire, ça passera toujours. On risque notre vie, mais l'immigré, le réfugié va quand même tenter. Certes, il peut mourir, mais il tente quand même.
Exactement.
Il va tenter de passer par les Canaries, il va tenter de passer par Lampedusa, il va tenter de passer, voilà. Malgré tout, il tente.
Je vais vous raconter une anecdote. Moi, j'étais directeur de CADA, dans les Hautes-Pyrénées, pendant une dizaine d'années. J'avais toujours un discours très préparé quand je recevais les gens, parce que je pense que je suis assez fier de notre régime de solidarité qu'on a en France. C'est-à-dire, je recevais tout le temps les personnes en leur expliquant, la France, c'est pas l'Eldorado, nous aussi, nous avons des problèmes. Nous avions, à l'époque, 12% de taux de chômage, nous avons des personnes qui vivent dans la misère, nous avons, et puis un système de solidarité où les jeunes payent pour les vieux, les personnes qui sont en mauvaise santé, en bonne santé, payent pour ceux qui sont en mauvaise santé, etc., etc. Et je racontais tout ça et je disais, ce qu'il faut, c'est aujourd'hui, et c'est le discours que je continue à tenir, c'est qu'il faut que la roue tourne, c'est-à-dire que nous pouvons accueillir, mais pour que vous vous mettiez à travailler, pour qu'à votre tour vous cotisiez et pour qu'on puisse accueillir d'autres personnes. C'était un discours très... j'avais en face de moi une dame très bien, très cultivée, une professeure rwandaise qui m'a dit, Monsieur Gibault, je suis arrivé un 22 décembre à Paris avec, pour tout bagage, un sac en plastique. J'ai fui la guerre au Rwanda et quand je suis arrivé, quand j'ai vu vos vitrines, quand j'ai vu vos illuminations, je me suis dit, il a bien une place pour moi dans ce pays.
Et malheureusement, c'est possible ou pas ? La République peut accueillir.
Je sais pas, faisons. Je sais pas s'il faut faire de la place, mais nous ne pouvons pas reprocher à des personnes qui sont nées dans des pays en guerre de vouloir une vie meilleure. On ne peut pas leur reprocher ça. Maintenant, nous allons revenir sur cette loi sur l'immigration. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que cette population, elle va continuer à être présente. La loi nous dit que à partir d'un moment la loi, si elle passe en totalité, mais bon, ça c'est à voir, nous ne pourrons plus les accueillir dans des centres d'hébergement. Les centres d'hébergement leur sont interdits. Ça veut dire quoi ? Qu'on va les laisser à la rue. À un moment donné, il va faire froid et on va nous dire mais remettez-les dans des centres. Alors que ça sera quoi ? On va ouvrir des gymnases, on va ouvrir des lieux insalubres où il y aura de la collectivité, où ils seront tous parqués dans le même endroit. Non, ce n'est pas possible. À un moment donné, c'est une histoire de bon sens. Aujourd'hui, on réfléchit à leur enlever toute possibilité d'être soigné. Alors, sous plein de conditions, en prouvant qu'ils ne peuvent pas être soignés dans leur pays. Bon, comment on va prouver ça, je ne sais pas. Mais ça veut dire que nous, quand on va nous orienter une personne et qu'elle va devoir avoir des soins, penser que ça peut être un enfant, ça peut être une femme qui va accoucher, on va lui dire non, vous ne pouvez pas être soigné, vous ne pouvez pas aller à l'hôpital, vous ne pouvez pas aller voir un médecin parce que nous ne sommes pas remboursés. Comment va-t-on pouvoir supporter ça ? Alors, c'est quoi ? Nous allons travailler avec des médecins bénévoles, avec des infirmières bénévoles. La distribution alimentaire va être faite par les associations qui sont déjà à bout et qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins.
Quand vous discutez de cela très concrètement avec la préfecture, avec les services de l'État dits décentralisés, c'est important, vous ne parlez pas avec les ministres, mais vous parlez en région, le fonctionnaire qui s'occupe, le directeur de la cohésion sociale, le préfet, le commissaire à la pauvreté et la lutte contre la précarité, ils vous disent quoi quand vous discutez, quand l'ensemble des fédérations se retrouvent, quand il y a un collectif qui se trouve dans les salons dorés de la République pour aborder ces questions, ils vous disent quoi ? Oui, c'est la loi, oui, peut-être c'est la loi, mais comment on fait concrètement ? On ne va pas jusqu'au bout, là ?
Non. Il y a quelque chose de très nouveau aujourd'hui. C'est que la population, aujourd'hui, la vindicte populaire, tient ce discours. C'est-à-dire que si notre système de santé est mauvais, est embolisé, où on ne peut plus se faire soigner, c'est parce qu'on soigne trop de gens. Si on n'a pas le bon travail, le bon emploi, parce que ce n'est pas vrai, on manque de personnes, c'est parce qu'il y a trop d'immigrés. Si on manque de logement, c'est que les immigrés sont prioritaires. C'est ce genre de discours.
C'est le discours aujourd'hui ambiant et c'est imposé. On a perdu là, pourrait-on dire, la bataille des idées, de la générosité dans notre pays.
Oui. Pour ne pas dire
on a perdu une bataille idéologique.
Je crois qu'il y a un repli sur soi. C'est-à-dire
le bouc émissaire est là, le bouc émissaire.
Oui, voilà. Ouais, c'est ça. Tout le monde essaye d'avoir un discours où on pense que l'émigré, de toute façon, est source de tout,
tous les maux de la République.
De la société aujourd'hui, et que c'est lui le coupable. On en a trop fait, combien de fois j'entends, oui, mais moi je cherche un logement, et alors vous allez donner en priorité un demandeur d'asile. Moi, le demandeur d'asile, tel que je l'ai vu et je l'ai vécu, c'est des jeunes couples de moins de 30 ans avec des enfants et qui n'ont aucune envie de se faire soigner. Ils ne se projettent pas dans du soin en France. Ils ne viennent pas pour se faire soigner. Ils ne viennent pas pour profiter des allocations ou des subsides de l'État. Ils viennent pour travailler, pour avoir un boulot qui lui permette de subvenir aux besoins de sa famille. C'est ça que j'ai rencontré.
C'est ça la réalité.
Et le reste. Et tout ce qu'on vous raconte de la famille qui profite des allocations ou qui a pas envie de travailler, c'est tout le temps le cas particulier qui fait généralité.
Et donc, difficulté. On attend ce que dira le
Conseil constitutionnel. On va mettre nos travailleurs sociaux et notre intervention sociale en grande difficulté. Quand vous allez avoir en face de vous une personne qu'on ne peut pas ni accompagner dans l'emploi, ni accompagner dans l'alimentation. Quand je vous dis que la personne, elle a besoin de subsides, aussi moindres qu'ils soient, pour faire vivre sa famille, aujourd'hui, on va les rendre complètement dépendants de notre système, c'est-à-dire qu'ils vont être dans la mendicité du moindre euro pour payer, pour vivre. Ils vont devoir nous demander pour avoir un ticket de métro, pour avoir du papier toilette, pour avoir des vêtements. C'est ça la dignité, c'est ça accompagner les gens dignement.
La FAS, qui est quand même une fédération importante, aujourd'hui présidée par M. Pascal Brice, qui était l'ancien directeur de l'OFPRA. C'est un monsieur qui connaît très bien le système, l'autorisation, l'OFPRA, qui était le service pour les demandeurs d'asile, pour octroyer, bien entendu. Voilà. Comment cette personne, qui est importante, un professionnel qui connaît, il n'arrive pas à se faire entendre, et qu'aujourd'hui, vos associations, vos collectifs, la FAS ou tout autre, également l'URIOPS, qui a manifesté avec un plaidoyer, vous n'arrivez pas à faire basculer. On vous entend pas, Monsieur Gibault. C'est terrible.
Non,
personne
ne
vous entend. Vous arrivez.
On nous entend. Sauf que un bruit en cache un autre, vous savez. Aujourd'hui, il y a les agriculteurs qui vont sûrement mettre un couvercle sur cette loi immigration. On l'a vu aussi aujourd'hui. Alors moi, je suis pas là pour critiquer. Les façons de faire du gouvernement, mais on l'a vu sur les retraites quand même. Il y avait le nombre de personnes dans la rue. J'ai suivi les manifestations un peu pour la loi immigration. On n'est pas nombreux quand même. On n'est pas nombreux à manifester. Donc on n'est pas entendable, on n'est pas visible. Mais à côté de ça, sur les retraites, toutes les semaines, il y avait des milliers de personnes. C'est pas ça qui a fait flancher. Donc c'est ça qui me fait peur, c'est que aujourd'hui, quels que soient nos arguments,
Mais c'est peut-être un dossier sur lequel il va falloir quand même travailler en profondeur.
Exactement.
Parce que la réalité va nous rattraper quand même. Hein.
La réalité ne va pas nous rattrapera sûrement. et il y aura une réalité qui n'est pas une ambition, toujours pareil, une ambition sur l'asile. Vous me demandiez tout à l'heure, qu'est-ce que le préfet, le gouvernement vous dit ? Enfin, le gouvernement, il me dit rien, mais j'entends ce que leur argument, c'est-à-dire qu'ils vont mettre en œuvre, ils espèrent mettre en œuvre des procédures pour arrêter l'immigration aux frontières, pour expulser. Mais c'est une piètre ambition, parce que on n'y arrive pas, parce que pour des raisons multiples, parce que pour expulser une personne, il faut tout mettre en place, toute une procédure qui n'aboutira, qui aboutira rarement.
Les procédures juridiques et du droit qui respectent le droit fondamental, quand même.
Exactement. Une personne qui doit être expulsée en Géorgie ou dans un autre pays, il faut que le pays veuille bien recevoir le ressortissant. Il faut organiser son expulsion. Donc, généralement, ce sont des procédures qui avortent. Et je n'ai pas en tête le nombre de personnes expulsées, mais on n'atteint pas les objectifs.
Les fameuses obligations de quitter le territoire, c'est très difficile à mettre en œuvre.
Exactement.
Et là, les professionnels le savent. Alors peut-être il y a une autre façon de quitter, c'est la fuite à l'anglaise. Tiens, je vous propose deuxième plage musicale avec Paolo Conti, une fuite à l'anglaise.
Che ora fai? È un'ora inglese, si va. Agguanta la mia mano e ce ne andiamo. Tanto di noi si può fare senza. E chi vuoi che noti mai la nostra assenza? Ragazza, tu sei bella ogni giorno di più. E non farti prendere dalla sonnolenza, ci interessa, no? Questa conferenza, che tanto il tempo passa anche sotto ai sofà. Ah sì che il tempo passa sotto ai sofà. Nemico numero uno degli aspirapolvere di tutta la città è là che lui tiene la sua accademia sotto lo sguardo vitreo dei bicchieri di Boemia. E intanto il comune cambia colore ai tramvai e che la gente poi ci prende confidenza, sì, ma di noi si può fare senza. È tutto un grande addio, un giorno Gondrand passerà, te lo dico io, col camion giallo porterà via tutto quanto e poi più niente resterà del nostro mondo. Ta-ta-da, ra-ta-ta-ta. Thank you. buca nella vita, chi lo sa, è che non sia proprio lei la quintessenza. Tanto di noi si può fare senza. Sì, tanto il tempo passa anche sotto il sofà.
Esprit Occitanie, sentinelle d'humanité, toujours avec Philippe Gibault, le directeur Cité Caritas pour le sud de la France, Aquitaine, PACA et Occitanie. Nous parlions de l'immigration, nous parlions de l'hébergement d'urgence, des acteurs de la solidarité. Croire en chacun, agir avec tous, voilà le slogan et les valeurs de votre projet associatif Cité Caritas. Est-ce que vous pouvez nous développer ? Il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais quand même, c'est assez original comme, hein, comme plan de bataille.
Alors, alors c'est toujours pareil. Ce serait peut-être le mot que j'ai le plus employé, là. C'est le mot ambitieux. C'est une ambition qui est très forte, mais auquel, à Cité Caritas, on est très attaché. Alors, croire en chacun et agir avec tous, vous avez toutes les composantes de ce qu'on souhaite aujourd'hui pour toutes ces personnes qu'on accompagne. C'est-à-dire croire aux compétences des personnes, c'est d'abord essayer de définir dans chaque personne son potentiel qui va permettre de rebondir, ça peut être même si ce potentiel il est diminué ou s'il est il est très mince, mais partir de là pour que la personne d'abord croit en elle. On est quand même confronté beaucoup à cette question d'isolement, ce qui fait je réfléchis souvent à me dire mais est-ce que tout le monde pourrait un jour tomber dans la précarité? La réponse
est oui aujourd'hui.
Elle est oui, mais il y a des facteurs.
On est tous vulnérables.
Oui, mais il y a des facteurs.
Il y a une vulnérabilité universelle.
Oui, mais il y a des facteurs aggravants.
Oui.
Il y a des facteurs aggravants, c'est-à-dire que si vous êtes isolé, si vous n'avez pas de famille, si vous êtes seul socialement,
ça s'accélère.
C'est là que la retombée, elle est plus importante. Donc, je crois en cette humanitude, oui. comme vous aimez en parler. Je crois beaucoup en ça, et je crois beaucoup aussi au pouvoir d'agir des personnes. Aujourd'hui, on est passé d'un accompagnement social où nous étions des sachants et les personnes étaient des patients, c'est-à-dire qu'ils devaient attendre patiemment qu'on leur dise ce qu'il fallait faire. Aujourd'hui, on a en face de nous des personnes qui savent ce qu'ils ont envie de faire, qui ont envie, et nous devons travailler sur ce potentiel.
Il faut leur donner une dynamique, les mettre dans une perspective, une dynamique positive.
Et un peu tout, il y a des expériences formidables qui sont faites sur les premières heures, c'est-à-dire qu'on part du principe qu'une personne, quelle qu'elle soit, elle peut travailler. Peut-être une dame qui a des enfants en bas âge, elle peut travailler 2 heures seulement, une fois qu'elle a amené ses enfants à l'école, et puis entre le moment où elle va les récupérer, ces 2 heures, c'est le travail qui s'adapte aussi à son environnement, à ses contraintes, et c'est comme ça que petit à petit elle reprendra le goût au travail. C'est tout cet accompagnement, que ce changement aussi qu'il faut qu'on opère sur et la vision qu'on a des personnes en fragilité sociale.
Agir avec tous, ce pouvoir d'agir, cette autodétermination, c'est en fait restaurer du mouvement, quoi.
C'est ça, et être à côté des personnes et pas
à côté. Restaurer ce mouvement important. Peut-être dernière question, vous êtes donc une association, vous n'avez pas caché d'ailleurs en disant il y a le secours catholique, c'est une émanation, pourrait-on dire, de la pensée sociale chrétienne, mais aujourd'hui, Cité Caritas, c'est une association dite laïque.
Exactement.
Vous avez un conseil d'administration. Il est présidé par qui, votre président ou présidente?
Alors, par Jean-François Desclos.
Qui est un ancien du secteur
du privé. Mais ce que je retrouve beaucoup dans les administrateurs, nous fonctionnons avec des administrateurs référents, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont du territoire, qui sont avec un ancrage territorial fort, Et ce que je retrouve avec les administrateurs, et je le dis d'une façon très ouverte, c'est justement leur envie aussi que nous ayons pas qu'une que nous participions très activement à la voilà à tout ce qui est la solidarité sociale et avec avoir des projets qui ne sont pas basés que sur des questions financières mais aussi surtout répondre à des besoins publics.
Pour terminer, vous avez peut-être une fierté. Quelle est la fierté la plus importante dans le métier en tant que directeur?
Alors,
des objectifs et des fiertés, mais il faut parler des fiertés.
Oui, la fierté. Moi, je suis un homme de bureau, malheureusement. Je m'occupe de stratégie, de partenariat. Et ma fierté, c'est quand je vais manger la galette ou quand je vais, quand je suis invité dans un établissement, que je mange avec eux et que je vois leur parcours, que je vois l'envie des personnes. Le travail qui est accompli et qui est accompli conjointement.
C'est ma fierté.
Ouais.
Les personnes accompagnées avec cette humanité,
le retour. Voilà, comme quoi, des fois, ce qu'on fait, ça a une utilité.
Il y a une utilité sociale.
Complètement.
Merci, monsieur Gibault.
Merci à vous.
Vous avez fait d'abord 10 ans dans un CADA. Maintenant, la Croix-Rouge, ensuite la Croix-Rouge, Cité Caritas. Vous avez un plan de carrière? Ça sera quoi après? Terminer votre carrière Cité Caritas?
Non. J'aime bien tout ce qui est entre justement. Je veux pas trop, mais je veux tout le temps être en lien avec le terrain et pas être déconnecté.
Bien, mais merci beaucoup. On sent bien l'homme engagé, l'homme qui regarde dans les yeux. Et au fond de chacun trouve son humanité. Merci d'avoir participé à cette émission Sentinelle d'Humanité. On se donne rendez-vous à la semaine prochaine. À très bientôt.